L'atmosphère extrêmement pesante chez l'opposition, sidérée, choquée, inquiète, les démocrates ont très vite réagi. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a notamment accusé Donald Trump et son vice-président J.D. Vance de faire le sale boulot de Poutine. Il a ajouté sur le réseau social X, les démocrates au Sénat ne cesseront jamais de se battre pour la liberté et la démocratie. Beaucoup ont été tout simplement horrifiés d'assister en direct à un retournement complet de la politique étrangère de leur pays et d'entendre un président américain prendre la défense de l'agresseur face au président d'un pays envahi. C'est notamment le cas de l'élu Seth Moulton qui s'est exprimé sur la chaîne CNN et n'a pas mâché ses mots.
Le président des États-Unis est un lâche et une marionnette de Vladimir Poutine. Le vice-président des États-Unis est un loser et la marionnette de Donald Trump. Nous venons d'être témoins d'une réunion dans le bureau ovale entre deux lâches marionnettes et un héros. Et que vous ayez voté pour ces marionnettes ou pas, en tant qu'Américain, c'est juste très embarrassant que le seul héros dans le bureau ovale, le seul être humain décent, soit l'Ukrainien. Cette administration sera définie comme la plus embarrassante de l'histoire américaine.
Voilà, on entend des mots assez durs du côté démocrate, Sonia, mais est-ce qu'on a aussi entendu des républicains exprimer leur mécontentement ?
Alors, selon cet élu démocrate, Moulton, la plupart des républicains au Congrès pensent comme lui, mais n'osent pas le dire. C'est possible, en effet, que beaucoup ne disent rien, craignant les foudres de Donald Trump. La plupart ont salué publiquement la fermeté du président face au président ukrainien, que les partisans de Trump accusent d'être venus chercher un chèque en blanc et d'avoir manqué de respect au président américain dans le bureau ovale. Mais de rares élus républicains ont osé dire les choses, comme Don Bacon, élu du Nebraska, qui a déclaré « L'Ukraine veut l'indépendance, une économie libérale et l'état de droit. La Russie nous déteste, nous et nos valeurs occidentales. Nous devrions montrer que nous sommes pour la liberté. »
Et justement, à propos de la presse dite libérale, elle s'est aussi emparée de l'affaire ?
Oui, The Nation, journal proche des démocrates, a titré le spectacle le plus honteux de l'histoire de la politique étrangère américaine. Pour le quotidien USA Today, cette querelle dans le bureau ovale peut devenir le point de bascule d'un réalignement qui rapprocherait Washington de Moscou et l'éloignerait des alliés européens. Le New York Times accuse le président américain de s'être rangé du côté de l'agresseur. Et dans le Washington Post, l'éditorial de ce samedi compare le locataire de la Maison Blanche au parrain de Francis Ford Coppola, en écrivant à propos de cette fameuse rencontre dans le bureau ovale, Donald Trump ressemblait plus à Don Corleone qu'à un président américain.
Merci Sonia Dridi pour ces explications. Justement, la posture des différents pays et gouvernements, certains sont actuellement coincés, comme l'Italie. Giorgia Meloni entretient un lien qu'elle considère comme privilégié avec Donald Trump. Elle était d'ailleurs la seule chef d'un gouvernement européen à être présente à sa cérémonie d'investiture. C'était le 20 janvier dernier. Alors, comment ce rapport aux derniers événements, on retrouve à Rome Valérie Dupont. Valérie, bonjour. Comment Giorgia Meloni a-t-elle réagi face à cette incroyable scène entre les deux présidents, Zelensky et Trump à la Maison-Blanche?
Bonjour, et bien fidèle à son légendaire flair politique, Giorgia Meloni a d'abord choisi le silence. Vendredi soir, alors que les messages de soutien arrivaient de nombreuses capitales européennes...
Et à 7h49, bonjour Daniel Walter.
Bonjour.
Ce matin, notre invité est Raoul Delcorde.
Oui, ancien diplomate, ambassadeur honoraire, professeur de relations internationales à l'UC Louvain. Alors, le monde a-t-il basculé après le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? La communauté internationale est sidérée et choquée alors que la Russie se réjouit. Que va-t-il se passer à présent? Ce dimanche, les alliés de l'Ukraine se sont retrouvés à Londres pour un sommet consacré à la sécurité. Ils ont réaffirmé leur soutien à Kiev. Ils parlent d'accords de paix et de trêve. L'Europe est-elle en train de se réveiller? Va-t-elle retrouver une unité? Et puis, quelles sont les marges de manœuvre?
5h, 10h.
Matin première. Vous n'avez pas les atouts pour vous comporter ainsi. Là, vous êtes en train de jouer la vie de milliers de personnes. Là, vous êtes en train de risquer la Troisième Guerre mondiale.
Bonjour Raoul Delcorde.
Bonjour.
Après ce qu'on vient de vivre ce week-end et notamment l'altercation entre Zelensky et Trump, on vient d'entendre un extrait, altercation dans le bureau ovale vendredi. Est-ce que les États-Unis sont encore un allié des Européens aujourd'hui ?
Je commence à me le demander. Je crois que le président Trump n'a pas d'allié. Il a des amis personnels et des ennemis personnels. Manifestement, le président russe, le président Poutine est devenu un ami, d'une certaine manière, du président américain. Et cela, c'est un basculement significatif dans les relations transatlantiques. Oui. Et une manière aussi d'isoler, de manière scandaleuse d'ailleurs, l'Ukraine, qui jusqu'à présent était soutenue par les États-Unis.
Mais vous dites un ami, Vladimir Poutine, mais c'est pas un nouvel allié.
Alors, je pense que Trump réfléchit en termes de relations interpersonnelles. Ça peut basculer d'un moment à l'autre, on ne sait pas. À un moment donné, on a cru, lors de Trump 1, que le président nord-coréen était devenu un interlocuteur, à la stupéfaction mondiale, des États-Unis. Et puis ça a duré un temps, ils se sont vus, et ça s'est terminé tout aussi brusquement. Avec Trump, on est dans l'imprévisible.
On est sûr de rien, mais vous dites que c'est un basculement historique. On doit désormais, nous les Européens, se débrouiller seuls.
Oui, c'est vraiment le message que l'on doit lire de l'altercation qui s'est produite dans le bureau ovale vendredi. Le président américain a parlé du poutinien, si j'ose dire. Il a repris le narratif russe. Le message est clair pour les Européens. Il a été perçu très clairement à Londres hier, après la stupéfaction initiale. Nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes.
On va y revenir à Londres, mais avant, on va revenir sur ce qui s'est passé justement dans le bureau ovale pour bien comprendre. Alors, est-ce qu'il faut parler de sinistre mise en scène devant les caméras avec un Trump, un J.D. Vance, le vice-président, et Zelensky, qui est sermonné, humilié, congédié? Quelle est votre lecture de cette séquence en tant qu'ancien ambassadeur?
Alors, il n'est pas inhabituel dans une négociation entre personnalités politiques qu'il y ait à un moment donné une altercation. Sauf qu'en général, ça se passe derrière des portes closes et pas devant les caméras et le monde entier. Que le président américain et en fait le vice-président, étonnamment présent à la réunion, alors qu'a priori ce n'est pas lui qui peut interpeller le président ukrainien, a commencé les hostilités, a été repris ensuite par Trump. Et si j'avais été le conseil diplomatique du président ukrainien, je lui aurais dit: laissez Trump parler, ne l'interrompez pas, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Et ensuite, venez avec vos arguments. Mais bon, le président ukrainien, il a 3 ans de guerre derrière lui, il est fatigué, il n'était pas venu pour entendre ce genre de discours. Vous avez remarqué que le secrétaire d'État Marco Rubio ne parlait pas, et le langage non-verbal semble indiquer qu'il était très embarrassé. L'ambassadrice ukrainienne était effondrée, et donc c'est parti en vrille, si j'ose dire, et il a été congédié comme un malpropre, par le président américain, et ça, en soi, c'est la fin de la négociation.
Mais ça aurait pu se passer autrement pour vous aussi. Zelensky n'avait peut-être pas perdu son sang-froid, ou vous n'avez pas été pris au dépourvu plutôt, c'est ça?
Je crois que Zelensky, dans d'autres circonstances, aurait dû éviter d'interpeller les Américains sur leur aide. Car il y a quand même eu, au départ, une aide substantielle sans laquelle les Ukrainiens auraient subi des pertes considérables. Et puis, à mesure... Vous savez, les 30 premières minutes se sont déroulées à peu près calmement. Ce n'est que vers la fin qu'ils l'ont they trapped him, comme on dit en anglais. Ils l'ont vraiment piégé. C'était voulu. C'était manifestement voulu.
Et quel était l'objectif, finalement? Puisque Trump qui conclut à la fin, c'est un bon moment de télé. On assiste à un jeu, c'est une partie de poker, c'est de la télé-réalité, c'est quoi?
Vous savez, dans la mentalité de ce gars du Queens, une des banlieues populaires de New York, dans sa mentalité, il faut, lorsqu'on est en prise avec quelqu'un, le déstabiliser, le repousser dans les cordes. Et puis, lorsqu'il est vraiment déstabilisé, alors on peut commencer à négocier. Évidemment, le président ukrainien n'était pas du tout prêt à cela. D'où les conséquences.
Vous le savez, nos auditeurs, nos auditrices réagissent durant cette interview. Raoul Delcor, d'une question, je vous la lis, c'est celle de Francis. Difficile de comprendre le volte-face des Républicains qui, il y a peu, applaudissaient à tout va Zelensky lorsque ce dernier visitait le Capitole à Washington DC. Est-ce de l'hypocrisie ou simplement un intérêt prononcé de Trump pour le sous-sol ukrainien qu'il pourrait aussi bien partager avec les Russes? Quel est votre avis là-dessus?
Oui. Comme tout le monde le sait, Trump voit les relations comme des rapports de force, comme du transactionnel. Alors c'est vrai qu'en d'autres temps, le président ukrainien a été accueilli chaleureusement à Washington. On est dans une autre configuration. Ce qui intéresse Trump, c'est tout simplement de récupérer la mise, pour dire les choses vulgairement. Et effectivement, mais la question n'a même pas été abordée, comme vous avez pu le constater. Et de fait, je crains qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus véritablement de ligne de communication entre les Ukrainiens et les Américains. Dès lors, c'est aux Européens à jouer.
Alors hier, il y a un sommet des alliés sur l'Ukraine qui a réuni à Londres, Allemands, Français, Britanniques, Canadiens, une quinzaine d'États. Et on va d'ailleurs écouter un petit extrait.
And if you want to preserve the peace, you have to be prepared to defend the peace. So the reason I've been forward-leaning on this is because I want to avoid conflict.
Voilà, c'était le Premier ministre britannique. Si vous voulez, en gros, préserver la paix, il vous faut préparer à la défendre pour éviter un conflit. C'est un électrochoc, en fait, après ce qui s'est passé vendredi. Là, les Européens sont en train de se réveiller.
Oui, de deux manières. D'une part, sur le plan militaire, puisque ce qu'on appelle en anglais « the coalition, the willing », ceux qui veulent sont invités à partir d'aujourd'hui à contribuer de manière plus importante militairement à l'effort de guerre ukrainien. Je rappelle, c'est un peu technique, mais qu'il y a actuellement des batteries patriotes sur le sol ukrainien qui sont des équipements américains. Si les Américains retirent ces batteries patriotes, c'est compliqué. De la même manière, les drones ukrainiens utilisent des satellites américains. Donc il va falloir très vite suppléer à ces déficits de logistique. Ça, c'est la première dimension de l'accord de Londres. La deuxième, qui est diplomatique, qui est plus complexe, prévoit d'abord, dans les prochains jours, une trêve.
D'un mois. C'est possible, ça?
Pour autant que les Russes soient d'accord. Parce que, et c'est là, j'ouvre une parenthèse, vous savez, bon, l'Union européenne a une batterie de sanctions contre la Russie, on ne parle pas au président Poutine, etc. Mais la diplomatie, c'est souvent quand même de parler à ses ennemis. Il va falloir, à un moment donné, quand même engager une discussion avec les Russes. Sans quoi, je ne vois pas comment on fait. Parce qu'effectivement, cette trêve, il va falloir qu'ils la respectent dans les airs, sur terre, etc. Et puis après, à la trêve, il y a l'accord de paix. Et ça, c'est une autre paire de manches, si j'ose dire.
D'autant qu'ils disent « l'accord de paix sera défendu par une coalition de volontaires ». Mais de qui parle-t-on?
Bon, de qui parle-t-on? Et là, il faut bien faire la distinction entre l'Union européenne et les États européens. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, à commencer par elle, n'est pas membre de l'Union européenne, pas plus que la Turquie qui était présente à Londres, ou le Canada. Donc les Willing, ce sont ces pays, membres de l'OTAN, pas nécessairement membres de l'Union européenne, qui sont prêts à faire cet effort, et à quelles conditions? Et c'est là toute la difficulté, parce que jusqu'à présent, nous avions un scénario qui prévoyait ce qu'on appelle le backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité américain. Mais si nous ne l'avons plus, allons-nous engager des troupes, nous, c'est-à-dire les quelques États européens, sur le sol ukrainien, avec tous les risques que cela peut induire, bien sûr.
Ursula von der Leyen a aussi parlé de réarmer l'Europe. Oui. Ça, pour vous, c'est possible et comment ça peut se passer? Est-ce que, vous, comme vous l'avez dit maintenant, est-ce qu'il y aura des troupes au sol?
Alors, quand on parle de troupes au sol, on parle d'une certaine manière d'une alliance militaire de fait, c'est-à-dire que si les Russes attaquent les Ukrainiens, normalement alors les Européens devraient venir au secours des Ukrainiens et riposter. Nous entrons là dans une forme de co-belligérance, ça prend une autre dimension tout d'un coup. Dès lors, il faudra bien réfléchir à tous ces paramètres. Vous savez, il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y en aura pas d'ailleurs. Il n'y a pas plus d'armée de l'OTAN. Il y a des États qui sont prêts à dégager un certain nombre de bataillons pour les mettre à disposition. Qui va coordonner tout ça? C'est toute la difficulté.
Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça risque quand même d'être très compliqué de se passer de l'aide militaire américaine.
Sans doute, il ne faut pas le nier. Vous savez, le Premier ministre britannique a dit « nous avons fait trop peu et trop tard ». Eh bien oui. En gros, depuis 1945, nous vivons sous le parapluie américain. C'était plutôt confortable. Depuis quelques jours, nous comprenons qu'il va falloir s'en passer. Sauf que s'en passer, ça veut dire un effort qui implique des mois et des mois, sinon des années de travail. Et c'est ce gap qui est particulièrement dangereux.
Et l'Europe doit absolument maintenant gonfler ses dépenses dans le domaine.
Alors comment? Bien sûr, il y a différentes modalités, mais va-t-on prendre sur les budgets que l'on avait consacrés, par exemple, à la sécurité sociale pour renforcer les budgets de la défense? Quels sont les arbitrages? Va-t-on accentuer les déficits budgétaires des États? Va-t-on mutualiser les dépenses militaires? Est-il normal qu'en Europe, il y ait 21 hélicoptères de défense, alors qu'on pourrait en avoir un seul? Voilà toutes les questions qu'on doit se poser.
Vous entendez, il y a énormément de questions, et vous reviendrez les analyser voilà. Avec nous, Raoul Delcorne. Merci d'avoir...